Bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième leçon, en tout cas pour la série de leçons que j'ai données ici à Paris cette année. Ce sera donc la dernière. L'année prochaine, je n'ai pas encore très bien réfléchi à ce que j'allais faire. L'année prochaine étant d'ailleurs la dernière, pour ce qui me concerne, au Collège de France, sauf changement de dernière minute. Donc j'essaierai de faire quelque chose d'un petit peu global l'année prochaine, qui reprenne un petit peu les éléments dont on a parlé au fil des années ou de ces 10 dernières années. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de centrer, après plusieurs présentations sur les bactéries et sur disons, la chronicité ou la persistance des infections bactériennes, essayer de faire un parallèle avec ce qui concerne, au fond, la persistance, la chronicité. On appellera ça les infections virales chroniques, parce que je crois que c'est le terme classique qu'on utilise dans cette situation. Avec une réflexion au fond sur, certes, la chronicité, mais surtout toute la problématique de la latence et de ce que signifie véritablement la latence en termes de sa physiopathologie, mais aussi de ses conséquences. Donc on reviendra sur des notions de commensalisme, de mutualisme, de pathogénicité, mais adaptées au contexte de l'infection virale. Et on essaiera de voir un certain nombre d'aspects qui, par essence, sont complexes, et on peut voir effectivement tout et son contraire dans la chronicité virale. Il y a des aspects, comme vous le verrez, qui sont bien entendu des aspects négatifs, des aspects physiopathologiques avec de la maladie derrière, mais il y a aussi un certain nombre d'aspects positifs en termes, finalement, d'entraînement du système immunitaire à répondre à des pathogènes hétérologues, et on essaiera de voir un peu justement ce que ça représente en termes en particulier du concept de la latence. Donc la première chose, c'est de redéfinir un petit peu de quoi on parle, et surtout au fond de réfléchir au fait qu'on a parlé beaucoup d'infections virales chroniques, et le terme s'est consacré à une époque où les virus, finalement, étaient considérés essentiellement sous l'angle des virus pathogènes, et en particulier de virus dont on pouvait plus ou moins facilement assurer l'isolement primaire, puis la culture dans des systèmes le plus souvent classiques de culture cellulaire au laboratoire. Et puis, comme vous le savez, depuis quelques années, voire quelques décennies, ça a été le cas pour la bactériologie, mais ça l'est aussi pour la virologie. La microbiologie moléculaire s'est emparée un petit peu des choses et a considérablement changé le paysage. Et ce qu'on va voir, au fond, c'est aussi, en tout cas, de réfléchir autour de cette notion maintenant plus de virome, c'est-à-dire non plus d'une liste relativement finie, sauf émergence de nouveaux virus, de ce qu'on connaît des virus pathogènes qui interagissent avec l'homme, on restera dans le contexte de l'homme, mais voir comment tout ça se revisite, comme on dit maintenant, à l'aune du virome, c'est-à-dire à l'aune de la possibilité, par les méthodes de métaséquençage, d'identifier, au fond, en tout cas moléculairement, l'ensemble des virus qui peuvent peupler notre organisme, soit globalement, soit au niveau d'un certain nombre de sites ou d'organes. Et on va voir que ça a un impact sur, finalement, le concept d'infection chronique qu'on a toujours tendance à prendre sous forme de pathogénicité, qu'au fond, une hépatite, on en entendra parler par Stanislas Paul tout à l'heure, elle a, pour l'essentiel, un aspect pathogène, mais certains virus, au fond, nous infectent chroniquement sans entraîner de pathogénicité, ou en tout cas sans qu'on puisse détecter quoi que ce soit, et ça pose donc pas tellement un problème de nomenclature, mais plus un problème d'expression et de compréhension de ce qui se passe derrière tout ça. Donc, on va parler, bien sûr, de virus et d'hommes, et tout de suite, en globalisant, parler du virome entre, finalement, des situations de mutualisme éventuel, en tout cas à définir ou redéfinir, et des situations de pathogénicité, donc de maladie. Alors, le virome, il faut le définir de manière à ce qu'on soit clair sur ce qu'on va raconter ensuite. On va le définir comme tous les virus qui sont présents de manière persistante à la surface ou dans l'organisme humain. Et au fond, cette composante virale, c'est la composante d'un groupe, d'un système plus global de micro-organismes qui nous habitent, qui comprend bien entendu les bactéries, mais aussi des protozoaires et d'autres cellules, systèmes cellulaires nucléés. Alors, il y a en gros trois catégories de virus qui constituent notre virome. On parlera d'une essentiellement, voire exclusivement. Ce sont ce qu'on pourrait appeler les virus classiques, c'est-à-dire les virus eucaryotes, les virus qui infectent les cellules eucaryotes qui constituent notre organisme. Qu'il s'agisse d'ailleurs de virus, encore une fois, pathogènes ou de virus non pathogènes. Et c'est là, encore une fois, qu'est une grosse nuance apportée par justement l'analyse exhaustive du virome par le métaséquençage. Et donc, on va se retrouver dans cette partie non pathogène sur des virus qui sont soit éventuellement des passagers, mais des passagers fréquents pour qu'on puisse les retrouver quand même assez régulièrement, soit véritablement des symbiotes. Alors, commensaux ou mutualistes, on reviendra un petit peu sur ces définitions parce qu'il faut les réajuster tout de même, ces définitions, et on peut peut-être le dire tout de suite, à l'aune du fait que les virus, de toute façon, par essence, ont besoin de nous, de nos cellules, pour se repliquer et pour, au fond, poursuivre leur existence. Et donc, il y a d'ores et déjà quelque chose qui est différent, par exemple, d'une bactérie qui pousse dans notre intestin et qui pourrait tout à fait pousser en dehors de cet intestin. D'ailleurs, elle le fait souvent sur des boîtes de pétri. Donc, on est là tout de suite dans un ajustement sur les terminologies, mais on en reparlera, bien sûr. Il y a des rétrovirus qu'on appelle endogènes, qui sont des rétrovirus qui sont intégrés de façon stable, définitive, extrêmement bien régulés dans notre génome, qui sont dans nos lignées germinales, qui sont donc transmis verticalement. Et puis, il y a bien entendu des infections virales chroniques qui puissent donner, à un moment ou à l'autre, lieu à l'intégration du génome viral dans notre propre génome. C'est le cas du VIH, par exemple, c'est le cas des papillomavirus, mais qui ne vont pas être transmissibles verticalement, pour l'essentiel, dans la mesure où cette intégration se fait souvent dans des lignages cellulaires particuliers, en tout cas, surtout dans les lignages du système immunitaire. Mais bon, le concept global d'intégration est là, même s'il peut se décliner sous des formes, je dirais, permanentes. Et vous savez que notre génome est constitué en pourcentage assez large de rétrovirus qui se sont stabilisés, qui se sont éventuellement altérés. Il en manque des morceaux, et parfois des morceaux très très importants, mais on peut retrouver des séquences qui rappellent la notion de rétrovirus et qui sont sous un parapluie de régulation extrêmement stricte, parce que laisser ces rétrovirus de notre génome se réactiver serait nous faire, bien sûr, courir un danger mortel. Donc l'évolution a mis au-dessus de tout ça, des systèmes de contrôle extrêmement solides. Et puis, il y a, puisqu'on parlait de la notion globale de microbiome ou de microbiote humain ou animal, il y a bien sûr tous les virus qui sont associés à des microbes. D'abord et avant tout, les bactériophages, qu'on parle toujours de ces chiffres astronomiques de 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif, il y a au moins 10 fois plus, voire 100 fois plus de bactériophages qu'il n'y a de bactéries dans notre tube digestif. Donc c'est une espèce de biomasse comme ça qui est finalement très silencieuse parce qu'elle nous concerne jusqu'à présent pas beaucoup. Elle concerne essentiellement, et si elle nous concerne de cette façon indirecte, les bactéries dans lesquelles ces génomes se repliquent ou s'intègrent éventuellement sous forme de prophages. Mais il y a des virus dans les archées, bactéries, il y a des virus dans les protozoaires, il y a des virus dans les métazoaires. Donc, je veux dire, on a un virome par le biais déjà des micro-organismes, et en particulier des prokaryotes qu'on héberge sur tous les sites de notre organisme. Donc, je vous parlerai essentiellement de la première catégorie, parce que c'est sur celle-là qu'on peut jouer le plus sur les concepts. Les autres font leur rôle en matière de santé humaine et animale, restent encore relativement inconnus, même s'il y a quelques progrès dans ce domaine. Alors, au fond, quand on réfléchit en termes de virome, c'est-à-dire en termes d'exhaustivité, autant que faire se peut, des populations virales, et au fond, du répertoire de populations virales qui sont présentes dans notre organisme, le processus a été, au fond, relativement lent à se mettre en place. dans la mesure où on ne bénéficie pas par rapport, et je pense que j'ai sauté une diapositive, on ne bénéficie pas des outils, on ne bénéficiait pas en tout cas des outils qui étaient disponibles depuis le milieu des années 70, on en a déjà parlé, d'analyse moléculaire et de définition des taxa bactériens, par exemple, par l'analyse CESS, donc par l'analyse métataxonomique. Il n'y a pas d'analyse métataxonomique chez les virus. Les virus n'ont pas, c'est dans leur immense diversité, des segments génétiques dans lesquels on puisse définir des portions conservées et des portions variables. Il n'y a pas de portions conservées du tout entre un EBV, un HPV et un quelconque des virus dont on va parler. Donc il y avait déjà une difficulté énorme. Les choses se sont heureusement relativement améliorées, voire largement améliorées ces dernières années par deux approches, et comme souvent deux approches technologiques qui ont été des ruptures ou des approches de rupture. La première, ça a été de finalement être capable de de rechercher des virus par des méthodes relativement non conventionnelles. Et c'est très difficile parce que ça nécessite au fond un certain nombre de connaissances et d'agrégation de compétences qui ne sont pas toujours disponibles. Et puis ça nécessite souvent une bonne idée, voire à chaque fois une bonne idée. Alors on a eu donc un retard dans l'analyse du virome à cause de ces difficultés. Il y a eu quelques exceptions glorieuses, héroïques, que je vous cite sur cette diapositive, qui sont d'abord la découverte du VIH, par exemple, en 1983, qui a été véritablement un changement, vu la courte dramatique de la maladie, mais au fond, une découverte basée sur de la virologie très classique de culture dans des systèmes cellulaires, avec quelques systèmes de neutralisation de l'interféron ou autre qui avaient été utilisés en particulier par Luc Montagnier et Françoise Barré pour faire pousser ce virus qui était extrêmement cytopathique ou qui est extrêmement cytopathique. Mais ça restait quand même de la virologie classique, sans aucun caractère négatif dans le terme. Et puis, il y a eu deux autres exceptions, ou deux exceptions maintenant sur le plan technologique, qui ont été le virus de l'hépatite C, et le virus du Kaposi, donc le HCV et le KSV8. Le virus de l'hépatite C, la découverte en 1989 par le groupe Chiron et le CDC aux États-Unis, a été basé vraiment sur la conjugaison de la biologie moléculaire et de l'immunologie, c'est-à-dire que les auteurs ont fait une librairie d'ADN complémentaire, l'ont exprimé dans les Escherichia coli et l'ont criblé avec le sérum de patients atteints d'hépatite C. Et finalement, un certain nombre de ces clones positifs ont été validés et se sont avérés correspondre à des séquences, et on a pu reconstruire le virus de l'hépatite C. Au début, puisqu'il a été bien difficile dans les premières années, et ça a été ensuite le travail en particulier de Barton Schlager en Allemagne et de Charlie Rice aux États-Unis, de cultiver ce virus véritablement sur des systèmes cellulaires. Mais au moins, la découverte elle-même et la démonstration de la présence de ce virus à l'occasion d'une maladie dramatique, l'hépatite C, a permis de montrer le potentiel, disons, moléculaire. Puis l'autre, qui est une autre approche moléculaire, a été en 1994, je crois, la démonstration de la présence d'un virus du type herpès, de la famille des herpès virus, chez des patients atteints de sida sous forme de la maladie de Kaposi, c'est-à-dire de ces tumeurs cutanées violacées que vous voyez sur la diapositive. Et là, les auteurs qui travaillent toujours d'ailleurs à Columbia University à New York, ont vraiment fait une librairie d'expression différentielle et ont pu identifier, au fond, en comparant l'ADN des tumeurs à l'ADN adjacent en tissu sain et à des populations contrôles, fait émerger des séquences qui, une fois analysées, montraient que ça correspondait à quelque chose qui ressemblait à un virus herpès, et ensuite les choses se sont développées de cette façon-là. Donc ça a été, je dirais, l'espèce de démonstration encore héroïque qu'on pouvait découvrir des virus émergents, mais certainement avec une lourdeur et un biais, au fond, parce qu'on ne trouvait, si on peut dire, que ce qu'on cherchait, ce qui est déjà pas mal dans le contexte, mais la notion d'exhaustivité et de virome est bien entendu absente de ces techniques. Donc, pour sortir de l'ornière, si je puis dire, il y a eu deux, encore une fois, changements technologiques très, très importants, qui ont été ce qu'on appelle les puces à ADN, ou les puces à acide nucléique, dépendant un petit peu de la nature des virus qu'on étudie, mais qui consiste en fait à mettre en place sur une matrice une quantité de séquences très importantes qui correspond au fond à quasiment tous les taxa viraux qu'on peut imaginer, en tout cas chez l'homme ou dans le monde animal, et d'aller récupérer ce qui hybride et de pouvoir éventuellement identifier. On compte là sur le fait qu'on aura la chance que ces virus qu'on cherche appartiennent à des familles déjà existantes, même s'ils s'en éloignent un petit peu, mais par les conditions d'hybridation, on peut jouer et réussir à sortir quelque chose. Mais peut-être ce qui va quand même assez rapidement, à partir d'une dizaine d'années maintenant, considérablement changer les choses, au même titre que ça a considérablement changé les choses avec le microbiote intestinal bactérien, ou le microbiote bactérien en général, c'est la métaséquence, et c'est au fond la capacité de prendre un échantillon de tissus, d'organes, de fluides humains ou animal, et à partir de cet échantillon, au fond, de faire le métaséquençage, de soustraire tout ce qui correspond, bien entendu, à l'ADN eucaryote humain ou animal sur lequel on s'intéresse, et au fond, par un ISBO informatique, de sortir des séquences qui peuvent correspondre à d'autres éléments du vivant, et en particulier à des virus. Et c'est quand même comme ça que, très largement, a pu, peu à peu, par combinaison de ces puces à ADN et par le métaséquençage, avec les méthodes de nouvelle génération, qu'on a pu commencer à élargir le champ et qu'on continue, en approfondissant le séquençage, à identifier de plus en plus, au fond, d'espèces virales qui sont associées à d'autres organismes et dont on n'avait jusqu'à présent pas du tout la notion. Alors, ça porte à la fois sur des virus déjà connus, pour lesquels on trouve de nouveaux génotypes, par exemple, et puis ça correspond en fait à des virus qui n'étaient pas connus, ou en tout cas n'étaient pas connus comme étant associés à l'homme ou à certains animaux. Donc ça, c'est un avantage, parce que non seulement ça permet effectivement d'élargir le champ d'investigation et au fond de faire le bilan de l'ensemble, si tant est que ce soit possible, des virus qui sont associés à nous, mais ça permet aussi de le faire chez les animaux qui nous entourent et de commencer à faire une véritable épidémiologie comparative et de tirer un certain nombre de conséquences éventuellement sur la nature pathologique ou non pathologique de ces virus. Donc ça permet d'engager au fond une étude de notre virome, non pas isolée, mais dans le contexte environnemental que le procurent les animaux qui nous entourent, voire d'autres situations ou d'autres écosystèmes. Pour terminer sur une note finalement optimiste par rapport à l'avenir et à l'émergence de nouveaux virus, on peut imaginer que compte tenu de la virémie que présentaient les patients au début du sida, quand on a commencé à observer la maladie et qu'on s'est intéressé à essayer d'identifier un virus, ça a pris plusieurs mois pour arriver à l'identifier, le cultiver. Sur le plan de l'identification moléculaire, il est fort probable, compte tenu encore une fois du niveau des virémies, qu'on aurait pu diagnostiquer le virus du sida si la même aventure se produisait aujourd'hui en quelques semaines, peut-être un mois ou plus. Pas la culture nécessairement, mais en tout cas la démonstration. Et Dieu sait si dans les premières années du sida, il y a eu des discussions assez violentes parfois sur le fait que c'était une maladie virale. Certains ne voulaient pas l'admettre. Là, au moins, on aurait eu la signature très rapidement de la présence d'un virus. Et comme c'est un rétrovirus, probablement on aurait trouvé assez vite nos marques par rapport aux rétrovirus déjà connus comme les HTLV1 et HTLV2. Donc on est dans des systèmes, encore une fois, où les ruptures technologiques nous permettent d'avoir augmenté le niveau de nos ambitions dans l'évaluation de notre virome, mais aussi vont soulever un certain nombre de questions, de difficultés, parce que plus il y a de virus qui peuplent notre organisme, plus ça pose de questions sur qu'est-ce qu'ils font là, quel est leur rôle. Et puis aussi, ça nous demande encore plus d'efforts sur la culture, parce que d'identifier un virus uniquement sur une base de signature moléculaire, c'est très bien, mais c'est encore mieux si on peut le cultiver et essayer de commencer à étudier ses fonctions et éventuellement son rôle dans la pathogénicité. Donc il y a dans ces progrès aussi une partie finalement d'emballement du système qu'il va falloir à un moment ou un autre pouvoir maîtriser. Donc ça, c'était juste pour bien cadrer ces deux approches, c'est-à-dire l'approche des puces et l'approche du séquençage de nouvelles générations et de l'analyse bioinformatique, mais pour illustrer aussi le fait que ça s'applique au fond à n'importe quel écosystème, à n'importe quel animal ou être vivant. Alors juste pour simplifier, comme je le fais toujours, si vous êtes intéressé, encore une fois, le PDF du cours sera sur le site du Collège de France. Je vous ai mis là deux références relativement récentes, en particulier une de Christelle Desnus qui avait fait un séminaire l'année dernière. Je lui avais demandé de venir de Marseille pour nous parler justement de cette analyse métagénomique et donc de l'introduction au fond de l'exhaustivité dans le bilan du virome humain. Et un autre par Marc Lecuy et Marc Éloi, qui sont à l'Institut Pasteur, sur cette utilisation. Donc, c'est vraiment une nouvelle dimension qui va aussi nous poser le problème de la latence virale, parce que ces nouveaux virus qu'on identifie comme faisant partie de nos viromes, a priori, on n'a pas tellement de notions sur leur pathogénicité éventuelle, on va y revenir. Mais donc, ça remet un petit peu en question le fait que certaines infections virales chroniques prennent des périodes de latence, et au fond, est-ce que ça correspond à la même chose ou non ? On en reparlera, on essaiera, si tant est que ce soit possible, d'éclaircir un peu la situation. Alors, quand on fait ces approches de métaséquençage, on se retrouve avec une liste, un peu à la Prévert, d'une série de familles ou de virus particuliers, dont je vous ai fait une liste là qui n'est pas exhaustive, mais qui représente essentiellement ce qu'on appelle les hits qui sont retrouvés dans la littérature et dont on parle le plus souvent. Donc, il y a tout d'abord des virus qui sont des petits ADN circulaires, des virus à ADN circulaire, mais de petite taille, qui font de 2 à 4 kilobases, ce qui est vraiment très petit. Et en fait, ces virus appartiennent à 4 familles, qui sont les papillomavirus et les polyomavirus, qui sont des virus ADN à double brin, et les anellovirus, on va en reparler, et les circovirus, qui sont des petits virus, encore une fois, circulaires, et à ADN simple brin. Donc des tout petits génomes, et on les retrouve partout, en fait. Ces virus, en gros, quels que soient les échantillons, on les retrouve dans le tube digestif, dans les fesses en tout cas, on les retrouve dans la peau, on les retrouve parfois, pour certains d'entre eux en tout cas, les anellovirus, dans la circulation. Donc clairement, c'est des virus, à part finalement les HPV et poliomavirus, qui n'étaient pas si familiers que ça, comme étant présents et dans notre organisme et faisant partie de notre virome. Alors, ce qui est difficile souvent, c'est de les quantifier véritablement, parce que, au fond, les méthodes de métagénomique sont souvent biaisées vers des ADN circulaires, par rapport à des ADN linéaires, par exemple. Donc, et l'inverse, donc on, en fonction des programmes et des algorithmes, on peut avoir des difficultés à les quantifier, mais le fait qu'on les retrouve régulièrement et qu'ensuite on puisse éventuellement faire de la PCR quantitative sur des cas particuliers montre ou démontre en tout cas que ces virus sont extrêmement présents et présents dans une quantité relativement importante. Alors, quand on fait ces analyses du virome humain, il y a d'autres familles virales qu'on retrouve assez régulièrement, en particulier la famille des herpesvirus. Donc, ce sont des virus qui ont des génomes linéaires d'ADN double brin et qui sont plus grands, hein, 125-240 kilobases. On est déjà sur des virus qui ont la capacité de coder pas mal de protéines et de systèmes de régulation. Et donc, on a dans cette catégorie, bien entendu, des virus que vous connaissez, HSV1, HSV2, le virus varicelle zona, le BV, le cytomégalovirus, le virus du sarcome de Kaposi, HHV8, mais il y a aussi HHV6. Donc, on a des virus, en tout cas dans cette famille des herpès, qui sont assez typiques de ce qu'on appelle l'infection chronique latente, c'est-à-dire il y a eu une primo-infection à un moment de l'existence et ensuite ils se sont mis a priori en sommeil, mais on reviendra sur cette notion qui n'est pas aussi claire que ça, même si, bien entendu, à l'occasion de la primo-infection ou de l'infection, par exemple, de fœtus par la mère dans le cadre d'une infection ACMV, on peut avoir des complications relativement sévères et c'est certainement, ça fait partie des virus importants à prendre en considération et qui sont assez présents et assez prévalents. Vous savez, par exemple, que la prévalence du cytomégalovirus, qui est de l'ordre de 60-70% dans nos populations, pose un vrai problème en transplantation, par exemple, parce qu'on ne va pas transplanter un rein positif au CMV à un patient qu'on va mettre en immunosuppression sévère. Et c'est la même chose pour les transplantations médulaires et ainsi de suite. Donc ces virus, même s'ils n'ont pas individuellement un poids extrêmement lourd, sauf les fœtopathies au niveau de la femme enceinte, sont quand même des virus qui, indirectement, ont un poids relativement important en santé publique. Alors, un des premiers à avoir commencé à essayer de théoriser un petit peu tout ça, je dirais, et mettre un peu d'ordre dans ce virome qui complexifie, comme on l'a dit, considérablement notre façon de voir le monde viral associé à l'homme. Et encore une fois, on parle pour l'essentiel de beaucoup de ces virus d'hommes de femmes en bonne santé et pas de gens malades. On parle d'infections chroniques, donc qui peuvent se manifester par une pathologie ou qui peuvent être véritablement tout à fait latentes. Donc on a ce monde du virome qui se complexifie encore une fois en diversité au fur et à mesure que l'analyse et en particulier la profondeur du séquençage s'améliore ou augmente. Et au fond, on rentre dans un modèle qui est assez caractéristique de ce qu'on appelle maintenant la biologie systémique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un système global de virus. Alors là, on y intègre aussi les rétrovirus qui sont endogènes. On y intègre les virus qui régulent, au fond, probablement l'homéostasie des populations microbiennes, en particulier des populations bactériennes. Et on a donc un monde de la virologie qui, probablement, sous une forme ou sous une autre, à l'intérieur de notre organisme, correspond de façon directe ou indirecte et assure, au fond, la toile de fond de ce qu'est l'interface du monde microbien au jour le jour, même en l'absence d'infection, de pathologie, avec donc notre système immunitaire, mais éventuellement d'autres systèmes, en particulier tout ce qui concerne le métabolisme. Donc ça veut dire qu'on a cette diversité virale, qui peut d'ailleurs s'augmenter par la réplication virale, puisque vous savez qu'un certain nombre de virus, en particulier à l'ARN, ont des RNA polymérases qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas fidèles, et donc des mutations s'accumulent. Donc on a un système potentiellement en diversification permanente qui est confronté au système humain, qui lui-même aussi est divers, et en particulier à notre background génétique. Et il y a toutes ces théories maintenant, bien entendu, sur le fait que certains de ces virus ne vont sortir, en termes de pathologie, on le sait pour les herpesvirus, par exemple, qu'à l'occasion de mutations, en fait, chez les individus qui vont particulièrement, par exemple, altérer la voie de synthèse de l'interféron et donner lieu à des infections gravissimes, comme par exemple les nécroses de la rétine chez l'enfant jeune, qui sont des pathologies qui n'existent que chez les individus ayant une mutation dans un pathway, dans une cascade de signalisation qui est indispensable au maintien, au contrôle de ces infections virales. Et c'est un peu la théorie de Jean-Laurent Casanova, en particulier de Laurent Abel, il y a un travail récent publié sur la tuberculose, qui dit qu'au fond, il n'y a pas de maladie infectieuse sans qu'il y ait quelque part une mutation ou un défect génétique qui va permettre aux micro-organismes, à un moment ou à un autre, à un stade ou à un autre du processus infectieux, de se développer plus chez un individu que chez un autre. Donc c'est une théorie génétique des maladies infectieuses qui devient un peu cauchemardesque quand on commence à essayer, et c'est ce qu'avait essayé de mettre en place Skip Virgin, de voir un peu quelles sont les conséquences de ces infections virales et de cette population de virus dense qui nous habite, en termes justement de pathologie, en termes d'infection chronique, latente ou non latente, en termes au fond de commensalisme, de possibilité qu'on porte ces micro-organismes, ces virus, sans véritablement qu'il y ait un échange entre nous et eux, en dehors du fait, encore une fois, qu'il faut bien qu'ils soient produits par nos cellules. Donc tout ça, ça a créé une science qui est tout à fait passionnante, complexe, qui est bien entendu dans le cadre de la biologie systémique, et où on est confronté, au fond, génome et génome du côté de ces micro-organismes si nombreux et divers, et du côté de l'autre. Alors, pour essayer de parler la même langue, même si on peut toujours discuter un petit peu la terminologie, j'ai essayé de faire un diagramme du parasitisme viral, parce qu'au fond, d'abord et avant tout, quelle que soit la situation, ces virus sont des parasites, ils ne vivent que de la capacité de certaines de nos cellules à repliquer leur génome et les encapsider et à leur permettre d'être produits par ces cellules. Donc, on va avoir, par rapport à ce bruit de fond, je dirais, indispensable que nous, en tant qu'hôtes, permettions la multiplication de ces virus, une situation qu'on peut appeler ou définir comme le commensalisme. C'est-à-dire qu'au fond, une fois qu'on les a produits, on les ignore et eux nous ignorent. Et les paramètres pour définir tout ça sont extrêmement compliqués. La plupart du temps, on ne sait pas encore véritablement si, sur le court, le moyen ou le long terme, il ne va pas finir par y avoir une conséquence la présence de ces virus dans notre organisme, et on en reparlera. Donc, commensalisme, une notion, je dirais, transitoire et qui reste à confirmer. Il y a la possibilité d'un mutualisme, et on va y revenir, c'est-à-dire que le virus, bien entendu, a l'intérêt d'être fabriqué par un autre eucaryote, mais il nous apporte, quelque part, un avantage. Et pour qu'on puisse considérer que cet avantage est important, et pour beaucoup des situations dont on va parler, ce n'est pas toujours très net, il faut surtout imaginer que ce soit quelque chose qui a été véritablement sélectionné par l'évolution, et que la présence de ce virus ou de ces virus et de l'autre face à face ait pu se faire, encore une fois, sous forme de cette notion de super-organisme, c'est-à-dire que l'évolution, en fait, a mis la pression sur le couple homme-virus et pas simplement sur l'un ou sur l'autre. Donc, cette notion de mutualisme, il faudra qu'on essaye de l'éclaircir un tout petit peu. Et puis, bien entendu, il y a des situations de pathogénicité. Encore une fois, on est là dans la notion d'infection chronique, hein, virale, parce que bien entendu la grippe ou autre, la rougeole, c'est des infections aiguës. Donc on a cette notion donc de pathogénicité qu'il va falloir prendre en ligne de compte, parce que au fond c'est une extrémité du spectre qui encore une fois va un peu de ce commensalisme à la pathogénicité en passant par le mutualisme et où ce mouvement au fond va avec moins d'adaptation, moins de tolérance et moins, finalement, de coexistence pacifique entre les deux membres de cette interaction symbiotique. Alors, donc, si on parle de ces infections virales chroniques en essayant de balayer, effectivement, ce champ entre le commensalisme et la pathogénicité, il y a des caractéristiques, donc, dont on vient de parler dans la diapo précédente, à essayer de mieux définir. Le commensalisme, on l'a défini au fond comme une neutralité. On ne va pas aller plus loin pour l'instant. Le mutualisme, il peut y avoir des tas de conditions qui ne sont pas encore d'ailleurs dans l'essentiel bien étudiées, mais la principale et celle dont on parlera, c'est le fait que certains virus peuvent, à l'occasion d'une infection chronique, éventuellement le plus souvent latente, nous protéger contre d'autres infections, contre un agent infectieux hétérologue, et on verra exemples de virus, mais aussi des exemples de bactéries. Donc ça peut être considéré quand même sans discussion comme du mutualisme. Et puis la pathogénicité, ça va être, en termes encore une fois d'infection chronique, des éléments comme la récurrence, le fait que le virus ne disparaisse pas, l'inflammation chronique, l'immunosuppression, l'auto-immunité, l'immunosénescence, le cancer, tout ça, c'est des éléments de pathogénicité qui, sous une forme ou sous une autre, dans un délai variable, vont pouvoir s'associer à certains virus responsables d'infections chroniques. C'est le cas, bien entendu, du VIH, c'est le cas de l'hépatite B, de l'hépatite C, on en réentendra parler encore une fois. C'est le cas d'un certain nombre de sérotypes virus, de papillomavirus, de HPV. Bien entendu, les sérotypes, je dis sérotypes, excusez-moi, c'est un lapsus, sont des génotypes, en fait, des génotypes qui sont des génotypes oncogènes, comme le génotype 16 ou le génotype 18, qui sont responsables, par exemple, du cancer du col de l'utérus. C'est le cas de l'EBV, éventuellement, d'HHV8, on a parlé du Sarkozy. C'est le cas aussi de certains poliomavirus qui ont un potentiel oncogène, particulier responsable de tumeurs cutanées qui s'appellent les tumeurs de Merkel. Donc, on a déjà un tableau qui est relativement clair de la situation en termes de pathogénicité possible. Alors, ces virus qui sont responsables d'infections chroniques, ils vont, au fond, donner lieu à un certain nombre de situations en termes de leur établissement, je dirais, dans la chronicité. Il y en a qui vont, on en a déjà parlé, s'intégrer dans le génome de l'hôte. Alors, il y en a qui l'ont fait il y a très longtemps, il y a des millions d'années, probablement, on les a hérités de nos prédécesseurs, ce sont ces rétrovirus endogènes. Mais il y en a, comme on l'a dit, qui peuvent s'intégrer, entre guillemets, en cours de route, comme le VIH, comme l'HPV et probablement d'autres. Il y a cette notion, d'infection chronique, mais latente, donc de latence virale qu'on va retrouver chez en particulier les virus herpès qui, comme vous le savez, donnent une primo-infection qui assez souvent est cliniquement patente. Ça peut être une angine herpétique, ça peut être la mononucléose infectieuse de la primo-infection BV avec une pathologie un peu similaire lors de la primo-infection par le cytomégalovirus, mais qui peuvent passer aussi, dans la majorité des cas, inaperçus, mais au fond, sont des infections qui sont très, très, très prévalentes. Et puis, ensuite, on va donc rentrer dans cette période de latence, au fond, d'absence de symptomatologie clinique qui reste un petit peu grise, un petit peu mystérieuse, et on reviendra vers la fin sur ce que ça signifie véritablement. Et puis, il y a des virus qui assurent une réplication persistante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'éclipse, il n'y a pas cette phase de latence qui peut durer des dizaines d'années, par exemple pour les virus herpès, c'est-à-dire qu'ils se développent peut-être en silence au début, comme le VIH, même si on peut dire qu'il y avait souvent, ou il y a souvent chez les patients primo-infectés des ganglions, donc il y a des symptômes cliniques, le SIV chez le singe, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, certains HPV, au fond, créent par leur croissance, leur replication soutenue, au fond, dans une situation de résistance au système immunitaire ou de manipulation du système immunitaire, crée des symptômes, crée une pathologie qui va elle-même engendrer des symptômes et vous connaissez les complications, par exemple, des hépatites, la cirrhose et à terme, éventuellement, le cancer. Donc voilà un peu comment on essaye de différencier un peu les situations, même s'il y a énormément d'ambiguïté parfois et éventuellement de recouvrement, parce que au fond, certains de ces virus peuvent, on peut prendre le VIH par exemple comme exemple, au cours de leur carrière, si l'on peut dire, d'infection chronique, vont se servir de ces trois approches. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir une infection qui va être globalement latente. Ensuite, on va avoir une infection qui va éventuellement devenir, à partir de quelques mois ou quelques années, cliniquement patente, avec des symptômes, bien entendu, de l'immunodéficit, en particulier les surinfections, donc des effets indirects. Et puis on va avoir éventuellement des situations d'intégration ou qui peuvent éventuellement soutenir des processus de sanctuarisation du virus dans certaines populations cellulaires. C'est le cas probablement de virus VIH sous traitement par les antirétroviraux qui va, au fond, se cacher quelque part, éventuellement intégrer et ressurgir à un moment ou à un autre, ce qui rend extrêmement difficile, au fond, l'éradication, même par des thérapeutiques extrêmement efficaces. Donc on a, je dirais, dans le temps, dans l'espace, des capacités pour certains de ces virus à jouer sur les différents tableaux, ce qui ne rend certainement pas la vie facile. Et d'autant moins facile que ces virus dont on vient de parler ont un poids indiscutable en santé publique. Je pense que ce n'est pas indispensable de rentrer dans les détails. Alors, ce qui se passe, au fond, c'est que ces virus responsables de ces infections chroniques, en particulier dans les situations où il y a clairement des altérations physiopathologiques et des symptômes, vont entraîner une modification relativement drastique, alors à des niveaux variables, de la réponse immunitaire, ce qui va permettre, en particulier, on a parlé de HIV, on a parlé de HPV, de virus d'hépatite, ce qui va permettre cette situation de chronicité de se pérenniser. Et pour simplifier considérablement, si on veut essayer de chercher une espèce de fil rouge de traits communs stratégiques, même si les effecteurs de ces différents virus sont différents, une des cibles principales va être la production, l'expression des interférons de type 1, qui vont être, d'une manière ou d'une autre, régulés négativement par l'infection chronique par ce type de virus. Et ces interférons de type 1 sont des éléments essentiels de la défense innée antivirale et donc leur déficit d'expression ou des altérations dans leurs récepteurs, par exemple, vont faciliter considérablement la mise en place de cette chronicité. Mais au-delà de cet aspect, on voit souvent dans ces infections, encore une fois, je prends des éléments communs, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les différentes infections virales chroniques, mais des éléments comme l'altération de la présentation des antigènes, donc une manipulation qui va passer de l'inné à l'adaptatif et empêcher donc cette production d'une réponse spécifique qui souvent est indispensable après la réponse innée à l'éradication définitive du micro-organisme. On a une perte progressive en épuisement. Alors, le terme d'épuisement, c'est une traduction un peu simpliste de exhaustion en anglais. C'est un terme un petit peu à la mode en immunologie qui nécessiterait d'être un peu précisé parce que je ne suis pas sûr qu'il soit totalement adapté à cette situation, mais néanmoins, d'épuisement transitoire ou voire éventuellement définitif au fil du temps, de populations lymphocytaires, en particulier les populations CD8 souffrent considérablement. Les populations CD4 sont souvent reprogrammées, produisent par exemple de l'interleukine 21 qui stimule les follicules lymphoïdes et les cellules B et va donc augmenter considérablement la production d'anticorps. Et ça, c'est important dans l'équilibre biologique du virus qui est entré dans un cycle d'infection chronique. Mais il est clair que ces situations vont en même temps altérer le système immunitaire qui n'est pas dédié uniquement à la lutte contre ce virus précis, mais contre d'autres agents infectieux et, au fond, donner une possibilité d'altérer les réponses immunitaires en bien. On verra tout à l'heure que ça peut nous protéger contre certains micro-organismes en position de surinfection, ou en mal, bien entendu, créant des situations d'immunosuppression et de sensibilisation considérable à d'autres éléments infectieux. Et ces modifications, elles sont de nature extrêmement variable, y compris des régulations transcriptionnelles, des régulations épigénétiques qui les stabilisent éventuellement. Et ce domaine qui est de plus en plus, à la mode, ce serait un peu négatif de le dire comme ça, mais de plus en plus étudié, qui est celui de l'influence des changements métaboliques locaux dans les organes sur les profils de ces cellules du système immunitaire et donc l'altération de leur réponse. Donc c'était pour vous font décider un petit peu ce spectre de possibilités dans l'interface entre le virus et l'hôte. Mais ce sur quoi je voulais parler un tout petit peu, c'est, au fond, on est actuellement dans une situation, j'ai mis trois cercles. On a ce pool, si je puis dire, de virus qui sont, au fond, estampillés virus responsables d'infections chroniques, pathogènes, et cela, au fond, on ne va pas trop revenir là-dessus. Mais on a vu déjà qu'aux marges de tout ça, par le métaséquençage, apparaissaient un certain nombre de familles virales dont on ne savait pas très bien de quoi on pouvait les estampiller, et en tout cas pas dans l'immédiat de virus pathogènes. Donc ces virus sont là peut-être à l'état commensaux ou à l'état mutualiste, mais probablement, en tout cas dans l'état actuel des choses, pas plus. Et le problème, au fond, avec les progrès, en termes de profondeur du métaséquençage, c'est qu'on va peu à peu l'agrandir, cette famille de virus composants du génome. Et donc cette nécessité, au fond, de pouvoir comprendre les diverses situations, en particulier la problématique de la latence. Est-ce que cette latence de ces virus nous cache des pathologies à venir, ou est-ce qu'encore une fois, ils sont là de façon tout à fait anodine? On ne sait pas. Donc ça va être, je pense, un des éléments fascinants de la recherche dans l'interface virus-homme ou virus-animal dans les années qui viennent, parce que, au fond, d'avoir fait la liste des virus qui sont présents dans notre organisme, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est là que ça devient difficile, parce que c'est là qu'encore une fois, très souvent, ces virus sont incultivables, ou en tout cas, les efforts pour les cultiver n'ont pas été suffisants, et on va donc rentrer dans cette période de difficultés renouvelées dans l'analyse fonctionnelle et éventuellement physiopathologique. Alors, au fond, on peut se poser la question de rôle de ces virus qui n'appartiennent pas à la catégorie classique des virus responsables d'infections chroniques avec symptômes, avec pathogénicité. À quoi ils correspondent? Qu'est-ce que c'est? J'ai un peu réfléchi. Finalement, j'ai décidé de prendre les annélovirus qui me paraissaient être un bon exemple. Parce que si quelqu'un d'entre vous peut me citer ici une pathologie liée à annélovirus, je serais vraiment ravi d'avoir l'information. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et probablement avec du recul, parce que la population quasiment de l'ensemble de la planète est infectée, donc on aurait bien vu ça un jour ou l'autre, un moment ou un autre, émerger. Donc, on les considère couramment, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, comme étant des virus non pathogènes. Ils causent des virémies persistantes, c'est-à-dire qu'à cet instant T, si on prend cette salle, il y a probablement 60 à 70 personnes, ou 70% de cette salle, qui présenteront ce virus en circulation, et on en avait parlé avec Christelle, justement, l'année dernière. Donc, ce que je vous ai mis là, 70% de la population. Quand on prend, par rapport à des contrôles, par exemple, quand on prend des enfants en bonne santé, par rapport à des enfants malades, avec un syndrome fébrile inexpliqué, on s'aperçoit qu'effectivement, la plupart d'entre eux, même jeunes, ont déjà été en contact et ont des annélovirus circulants, ont des anticorps anti-annélovirus détectables. Mais quand ils sont malades, en fait, ils ont quelque chose en plus. Ils ont des entérovirus, ils ont des rhinovirus, ils ont, au fond, des signes d'une vraie pathologie avec des vrais virus bona fide, comme on dit, pathogènes. Et donc, il n'y a pas véritablement de surprise de ce côté-là. Mais ça, c'est quand même un... On a déjà parlé, je ne pense pas cette année, mais les années précédentes, sur le fait qu'avec les antibiotiques, avec les vaccins, on a de plus en plus de changements dans l'infection en pédiatrie, par exemple, dans les infections du jeune enfant. Et de plus en plus, on retrouve, au fond, des épisodes infectieux, parfois graves, avec un vrai sepsis chez de jeunes enfants, où, dans la moitié des cas, y compris avec les méthodes moléculaires les plus sophistiquées, avec en particulier des puces à ADN, on ne trouve pas de bactéries, et surtout, parce qu'on suppose que c'est un virus, on ne trouve pas de virus. Et donc on voit bien que même en matière de pathologie, il y a encore un réservoir en préparation qu'il va falloir à un moment ou un autre prendre en compte, et ça probablement seul le métaséquençage va permettre de progresser, mais il faut pouvoir le faire sur des cohortes d'enfants bien organisées, dans la mesure où ça ne peut pas être des choses qui se traitent essentiellement à l'échelle individuelle. Alors, les annélovirus, c'est une énorme famille qui recouvre à peu près tous les mammifères de la création. Ce sont, comme on l'avait dit au début, des tout petits virus de 2 à 2,4 kilobases qui ont le potentiel en overlap en fait, d'exprimer, donc de transcrire, de faire 2 transcrits et à partir de ces 2 transcrits traduits, de faire 6 ou 7 protéines. C'est donc un système qui est extrêmement compact, si je puis dire, et qui donne lieu à la formation de ces petits virus que je vous ai montrés là. Alors, illustrant encore une fois ce que je disais au début, on a un problème avec ces annélovirus qui est, malgré leur, au fond, l'universalité de leur présence chez l'homme, l'incapacité pour l'instant de les cultiver. Donc l'incertitude sur finalement leur fonction biologique telle qu'on pourrait l'étudier dans des cellules ou sur des modèles un petit peu plus sophistiqués comme des organoïdes ou des choses qui reproduisent un petit peu plus ou mieux les organes qui sont infectés. On ne sait même pas très bien dans ces ORF, dans ces deux ORF, ce qu'ils font véritablement, à qui il faut attribuer quoi, ORF 1, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux ORF, probablement code pour la capside. Mais il y a d'autres ORF qui vont être probablement impliqués, on pense en tout cas, dans des altérations éventuellement de l'expression de gènes de l'immunité innée, en particulier de la voie NF-kappa B. Mais tout ça, ce sont plus des supputations, des hypothèses que des réalités en l'absence de modèles expérimentaux. Alors il y a eu quelques clonages avec tentatives d'expression dans des vecteurs eucaryotes, et c'est ça qui, dans les cellules, a permis de montrer qu'éventuellement telle ou telle protéine avait la fonction de faire de la capside ou de faire une inactivation de la voie NF-kappa B, mais ça reste quand même pas très solide. Donc ça affecte, comme je l'ai dit, quasiment l'ensemble de la population, et en gros on a 100% de personnes qui sont là dans cette salle, cette fois-ci encore, positives sérologiquement pour ces virus. On pensait initialement que c'était un de ces virus, il y en a eu pas mal malheureusement ces dernières décennies, qui étaient transmis par la transfusion sanguine. Ce n'est pas du tout impossible, mais il semble que ce soit transmis éventuellement d'individu à individu très tôt dans la vie, puisque les enfants sont infectés très tôt et présentent très vite le virus ou des signes sérologiques de la présence de ce virus. Alors, est-ce que c'est commensal, est-ce que c'est mutualiste? On n'a pas tellement d'idées. Est-ce qu'il peut y avoir des pathologies liées à ces virus? On leur a éventuellement attribué des hépatites, ça peut-être Stanislas pourra en parler, mais je crois que rien n'est décidé. Des hémopathies, il y a toute la problématique, maintenant on en dira un mot à la fin, de l'immunosénescence, ou en tout cas, pris plus globalement à l'échelle de l'individu ou de la vie d'un individu, le potentiel que certains virus, on en reparlera pour les herpès virus, peuvent être, disons, positifs en termes d'immunostimulation dans les étapes précoces de la vie, mais peuvent devenir éventuellement des agents négatifs dans les dernières périodes de la vie et entraîner ou accélérer les mécanismes d'immunosénescence. Donc ça, c'est des éléments qui sont très très importants à prendre en considération et qui aggrave encore la complexité de la classification physiopathologique, parce qu'on a là des virus qui peuvent être mutualistes une partie de la vie et qui peuvent être pathogènes le restant de la vie. Donc on est où, là? C'est pas évident, et ça montre bien l'importance de cette notion systémique d'interface entre ces virus et l'hôte dans sa diversité, mais y compris dans sa diversité temporelle. Alors, les bases de la latence des annélovirus. Du coup, on ne comprend pas très bien, mais on a quand même une petite idée, c'est que ces petits virus à ADN circulaire, contrairement aux herpès virus qui ont des polymérases extrêmement fidèles, ont des polymérases qui font beaucoup d'erreurs. Et donc, manifestement, ils varient considérablement, très facilement, un peu comme le VIH, par exemple, même si on parle là de virus à ADN, on n'est pas dans un virus à ARN, mais ont des propriétés, je dirais, de diversification part survenue de mutations extrêmement importantes. Et une idée, ce serait qu'au fond, dans cette notion de résistance des virus aux défenses de l'hôte, il y a certes des virus qui ont un génome relativement diversifié avec beaucoup d'effecteurs possibles et donc une capacité d'aller jouer et assurer la subversion du système immunitaire en s'introduisant, finalement en introduisant ces effecteurs dans les voies de régulation. Et puis il y a des pauvres petits virus qui n'ont pas beaucoup de capacité et leur seule, au fond, capacité d'échapper, c'est de changer à toute vitesse, en permanence, pour tromper le système immunitaire. On a déjà parlé de ça pour les bactéries, mais là, c'est une échelle encore plus importante et on est dans cette notion très vite de quasi-espèce et ainsi de suite. Donc pour les annélovirus, on pense que c'est peut-être ça leur secret de leur survie et de leur pérennité, c'est qu'ils ont cette capacité de changement très très rapide, mais encore une fois, tout ça reste à véritablement démontrer et à être mis en perspective. Alors, au fond, on rentre dans des hypothèses où certains virus peuvent être tellement bien adaptés à leur hôte qu'on n'en entend quasiment plus parler. Et bon, on parlait d'un certain nombre de situations en matière de bactériologie les fois dernières, où au fond, on a cette espèce de marche qu'ont déjà largement fait les virus vers le parasitisme cellulaire, mais qui s'accompagne d'une réduction génomique très très importante. Et donc, plus la réduction génomique est importante, plus la spéciation en termes d'espèces qui se rencontrent, le virus et l'homme en l'occurrence, est importante. Et plus, au fond, on passe de la pathogénicité à un parasitisme relativement bien toléré, voire tout à fait toléré. Et donc, on est là dans des notions d'évolution et en particulier de plastique des génomes et de spéciation qui est très très importante. Donc au fond, on peut peut-être avoir des virus qui sont comme les bactéries dans notre tube digestif ou ailleurs, qui sont là sans véritablement être des éléments pathogènes. Et une famille de virus qui, je trouve, est exemplaire de ça, parce qu'elle présente au fond tous les cas de figure en un seul, mais quand je dis un seul, vous voyez la richesse de la famille et des taxaviraux, c'est la famille des papillomavirus, des HPV, qui est d'une diversité extraordinaire avec des alpha, des bêta, des gamma papillomavirus, avec des papillomavirus qui sont manifestement probablement des commensaux de la peau en particulier, puisque en fait c'est des virus qui assurent un parasitisme dans les épithéliums malpighiens, donc la peau, mais aussi par exemple le col de l'utérus. Mais qui peuvent donner aussi pour certains d'entre eux des lésions, des verrues, des condylomes, et puis qui, certains d'entre eux, en particulier ceux qu'on appelle les génotypes oncogènes, peuvent donner lieu à, par exemple, des tumeurs cutanées ou, en particulier, bien entendu, le plus fréquemment, c'est là qu'on les voit, le cancer du col de l'utérus, en tout cas des lésions cytopathiques et une marche progressive vers l'oncogénicité. Alors, ces papillomavirus humains, les HPV, comme je le disais tout à l'heure, sont définis par un génotype et par un sérotype. De toute façon, il y en a tellement que ce serait difficile d'avoir un anticorps pour chacun d'entre eux. Il y a plus de 120 génotypes caractérisés, mais au fur et à mesure qu'on fait du bêta-séquençage, on en trouve plus. Je crois que dans les 5 dernières années, on a trouvé 13 nouveaux génotypes d'HPV. Et au fond, ça n'est probablement qu'un début, d'autant plus que, comme je vous le disais, certains de ces virus peuvent changer assez rapidement. Au fond, ils ont un spectre d'activités possibles qui va de la réplication virale qui se fait dans les kératinocytes, et en fait, c'est la division des kératinocytes qui facilite à chaque fois un burst de production de ces, et de replication de ces HPV, et avec un effet cytopathique caractéristique que vous voyez sur la diapositive qui correspond en fait à l'amas de ces virus qui tue le kératinocyte autre en attendant de passer à côté. Donc là, on est dans de la pathologie qui va donner lieu à la formation de verrues, et sans qu'on sache exactement, encore une fois, pourquoi certains génotypes, certains individus vont être amenés en conjonction à faire ces lésions et d'autres pas. D'autres vont être véritablement totalement latents, à avec, on le sait, des variations dans le niveau possible de replication et un début de connaissance des effecteurs, des protéines codées par le virus qui assurent véritablement cette latence totale parce qu'on les voit se redéployer éventuellement pour certains d'entre eux à l'occasion de pathologies comme l'épidermodysplasie verruqueuse, qui est une maladie de l'ADN où il y a des cassures de l'ADN sont mal réparées. Et dans ce contexte génétique-là, ce type de virus va pouvoir donner des infections massives avec formation de verrues épouvantables et éventuellement déboucher sur des cancers cutanés. Mais on commence grâce, je dirais, à ces connaissances génétiques, à la fois en mettant en face le génome humain et le génome de ces HPV, à comprendre un petit peu la physiopathologie et la nature des protéines qui régulent tout ça. Donc, une flexibilité possible qui explique sans doute que certains virus HPV puissent à terme donner quelques lésions et d'autres rester à l'état pur de commensaux, voire de mutualistes, mais ce n'est pas encore très clair. Et puis, dans certaines circonstances, ils vont pouvoir s'intégrer. C'est les sérotypes oncogènes, c'est en particulier les génotypes oncogènes, le 16, le 18, excusez-moi pour le lapsus itératif, qui sont responsables en particulier du cancer du col de l'utérus, et d'où le vaccin, et ainsi de suite. Vous connaissez toute cette histoire. On en a déjà parlé. Donc, voilà, c'est pour, encore une fois, illustrer cette difficulté de faire rentrer un type de virus dans une boîte, si je puis dire, caractéristique. Donc ça reste un sujet largement ouvert. Il y a quelques temps, et je crois que ça a été confirmé relativement récemment, il y a quand même une hypothèse sur le fait qu'une certaine quantité de ces génotypes non pathogènes, ou en tout cas qui restent à un état plutôt commensal, pourraient être des mutualistes. Et il commence à y avoir des travaux intéressants qui montrent en fait qu'il y a une espèce de dialogue moléculaire croisé entre le kératinocyte qui facilite, qui permet la croissance de ces virus, et une croissance restreinte d'ailleurs à ces populations cellulaires, et en même temps le virus pouvant augmenter les capacités de division du kératinocyte, qu'on voit d'ailleurs, entre parenthèses, quand il y a formation de verrues, puisque c'est une efflorescence de kératinocytes qui vont produire toute cette structure de kératine qui fait la tenue des lésions. Et mais qu'au fond, sur un mode plus en deçà, il pourrait y avoir une espèce de régulation croisée et que, par exemple, certains HPV puissent jouer un rôle dans la réparation cutanée à l'occasion d'une blessure ou d'une brûlure. Donc ça, c'est des choses passionnantes parce que tout doucement, ça nous met le doigt peut-être, parce qu'encore une fois, tout se résonne en termes de coévolution. On ne voit pas pourquoi on conserverait des virus de cette nature s'il n'y avait pas un bénéfice mutuel. Et si l'un des deux partenaires n'y trouve pas de bénéfice, probablement à terme, ces virus devraient disparaître. Donc il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour expliquer probablement leur persistance. Là, je vous donne ça éventuellement comme une possible hypothèse, mais sans que ce soit encore totalement et définitivement démontré. Alors, un exemple maintenant de mutualisme certain, puisqu'on l'a introduit avec HPV et la réparation cutanée, c'est quelque chose que Stanislas connaît très bien, qui est le virus de l'hépatite G, qui a été montré il y a quelques années. Alors, c'était la période où on pouvait faire des études sur l'évolution du sida, parce que malheureusement, il n'y avait pas encore de traitement efficace. Donc, on voyait que certaines situations cliniques pouvaient éventuellement modifier le profil évolutif du sida, soit l'aggraver, soit l'améliorer. Et l'infection, et ça a été publié dans des très bons journaux, en particulier le New England Journal of Medicine, il y a eu deux papiers au moins, montrant clairement une corrélation entre l'infection par le virus de d'hépatite G, qui, sur le plan clinique, donne lieu à très très peu de symptômes et de pathologies, et l'évolution du sida. Et donc, au fond, la notion que certains virus peuvent assurer leur... au fond, une symbiose mutualiste par rapport à la protection de l'hôte par un virus qui, en l'occurrence, est le virus du sida. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, en termes d'évolution? On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est quand même un bel exemple. Et ce qui a été fait sur le plan fondamental a été d'éventuellement démontrer que ce virus de l'hépatite G diminuait l'expression du récepteur d'entrée du VIH dans les lymphocytes, inhibait la réplication du VIH, activait les réponses innées. Bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus dans la littérature. Je n'ai pas éventuellement trouvé grand-chose de plus récent, mais je peux me tromper. Mais voilà, c'était juste un exemple que je voulais vous citer. Alors, la dernière partie de ma présentation, je voudrais revenir un peu sur des virus dont on a parlé, comme ça, à un moment ou à un autre. Mais on n'est pas rentré véritablement dans des détails qui peuvent être importants parce que, encore une fois, on vit avec ces herpès virus. On va parler de la latence des herpès virus humains. Et on est exposé à des infections, des primo-infections. On sait à quoi ça peut correspondre. Et puis ensuite, il y a cette phase de latence qui est très, très caractéristique où le virus va finalement disparaître, en tout cas des écrans radars, a priori. On verra que ce n'est probablement pas si vrai que ça. Et ne pas donner lieu, en tout cas, à des pathologies, sauf résurgence. L'herpès labial en est un exemple très clair, mais il y en a d'autres, bien entendu. Donc on parle là, comme on l'a dit déjà, des virus herpès, HSV1, HSV2, varicelle zona, cytomégalovirus, herpès virus humain 6 et 7, Epstein-Barr, enfin voilà, cette collection habituelle des 8 virus herpès qui sont caractéristiques de l'espèce humaine. Donc il y a 3 sous-familles, alpha, bêta, gamma, mais ça, ça ne va vraiment pas vous amener beaucoup plus loin. Et par contre, on héberge beaucoup d'entre nous, encore une fois, pour vous donner de statistiques, mais les chiffres sont très élevés, probablement une bonne moitié de la salle héberge les 3. Le herpès virus simplex 1, peut-être le 2, le cytomégalovirus et l'Epstein-Barr, d'une manière ou d'une autre. Donc on en a un, non, on en a plus, on en a au moins 3 et on vit, au fond, au jour le jour, très très bien avec ces virus dans l'organisme et on a oublié depuis longtemps la mononucléose infectieuse ou l'angine herpétique qu'on a pu présenter à un moment ou à un autre. Donc, malgré tout, il y a une question qui se pose et qui, au fond, avait un côté un petit peu provocateur au début. Ça a été un peu lancé, entre autres, par des chercheurs comme Skip Virgin, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'au-delà de la primo-infection, à partir du moment où ces virus rentrent en latence, est-ce qu'ils impriment quelque chose sur le système immunitaire qui va en changer le profil ? Et qui va modifier éventuellement nos réponses à d'autres agents, à des tiers, si je puis dire, agents infectieux, à des agents de surinfection, et modifier notre réponse, en particulier nous protéger contre ces agents infectieux éventuels. Et donc il y a eu un travail qui a été en fait initialement publié, je crois que c'était en 2007, par justement le groupe de Skip Virgin, où ils ont infecté des souris avec virus herpès de la souris qui est un peu l'équivalent, qui est l'équivalent du cytomégalovirus humain en termes d'organisation globale de son génome. Donc c'était effectivement 2007, là je le vois sur ma diapositive. Donc on a parlé de la primo-infection, on est vraiment là dans une tentative de modélisation de la phase de latence et de la possibilité que cette entrée en latence, on est dans un modèle murin, modifie les réponses à une surinfection. Et ce que ce papier publié dans Nature avait montré, c'est qu'en fait, donc, cet herpès virus murin, cet équivalent du CMV humain, entraînait une protection de la souris infectée par ce virus, entrée en phase de latence, contre une surinfection expérimentale par l'hystéria monocytogenes ou par le bacille de la peste. Ils n'avaient pas eu peur dans les manips qu'ils avaient fait. Mais je resterai simplement sur l'hystéria monocytogenes. Et juste pour montrer rapidement les expériences, parce que c'était un joli papier qu'on avait beaucoup discuté, y compris en réunion de laboratoire, parce que c'était une façon de la virologie retrouver la bactériologie, et on avait un superbe modèle possible de pathogénicité. Ce qui était montré en rouge, c'est la courbe pour les animaux infectés par le virus herpès murin, et en noir, c'est les contrôles. Vous voyez qu'à une semaine d'infection, il n'y a pas d'amélioration de la courbe de survie des souris après challenge par listeria. Ici, c'est listeria, mais c'est pareil pour Yersinia pestis. Par contre, à partir du moment où on arrive à la quatrième semaine, c'est-à-dire que l'infection aiguë par le virus est passée, on voit s'installer une situation de protection, puisque vous voyez que la courbe rouge montre que les souris survivent très bien au challenge par listeria monocytogenes, alors que les contrôles meurent toujours aussi allègrement. Et le temps passant, la 12e semaine, on continue à voir cet élément de protection, mais qui a tendance à s'altérer, si l'on peut dire, dans sa visibilité. Et en parallèle, on voit, vous voyez le rouge par rapport au noir, c'est le même code couleur que la quantité de bactéries hébergées par ces animaux après le challenge diminue considérablement par rapport au contrôle, ce qui va avec, bien entendu, la diminution de la mortalité. Donc, magnifique papier dans Nature, où, d'un seul coup, et on voyait bien... beaucoup discuté avec Skip Virgin, qui est un copain, on voyait bien l'idée derrière, c'est que, au fond, cette latence virale des herpès virus, bon, là, l'équivalent du cytomégalovirus, a un impact sur le système immunitaire et nous protège. Donc on est dans une situation mutualistique, caractéristique, nous protège de surinfection. Et donc voilà le rôle de la latence, c'est éventuellement, dans la coévolution, de nous avoir protégés contre des pathogènes bactériens. Listeria, bon, je dirais, c'est pas ça qui a fait évoluer l'humanité, mais Yersinia pestis, et les courbes étaient à peu près les mêmes, ça a quand même eu un impact majeur. Donc peut-être les gens qui avaient le CMV latent résistaient mieux à la peste que les gens qui ne l'avaient pas. Vous voyez un petit peu les fantasmes. Bon, c'était bien, mais... au fond, peut-être c'était vu avec les idées de l'époque. Quand je dis l'époque, c'était il y a 10 ans. Mais bon, les choses changent relativement vite. Et il y a un débat véritablement qui s'est installé très rapidement. Parce qu'il y a un autre auteur qui a fait les mêmes études. Alors malheureusement, il a publié en second, donc il s'est retrouvé dans un journal moins visible, qui s'appelait Jaeger. Et ils ont confirmé cette période de protection contre un challenge infectieux par listeria. Je ne sais plus s'ils avaient fait Yersinia, mais en tout cas, ils avaient fait listeria. Mais alors, ce qu'ils montraient, c'est qu'au deuxième mois, ça durait, par rapport au résultat de Skip, ça durait 2 semaines ou 3 semaines de plus, la protection. Je vous ai montré, là, 4 semaines. Ça, bon, lui, il a fait protection jusqu'à 6 semaines. Mais après, tout s'effondrait. C'est-à-dire que la souris restait, bien sûr, en latence de l'infection CMV, mais il n'y avait plus cette protection. Donc il y a eu un gros débat qui a commencé à ce moment-là sur, au fond, de quoi on parle. Est-ce que ce qui a été défini comme la latence par rapport aux symptômes cliniques de la souris, l'absence de symptômes cliniques, elle avait guéri de son infection aiguë, mais est-ce que c'est pour autant de la latence? Est-ce que ce n'est pas plutôt éventuellement un retard de la guérison du processus d'infection aiguë, mais qui ne correspond pas véritablement à une latence en termes d'une période stable, définie, qui permettrait d'assurer ce problème ou ce sujet de protection. Donc, au fond, remettant un petit peu en question cette belle idée que la coévolution aurait quelque part sélectionné ces virus qui se mettent en phase de latence parce qu'ils apportent un bénéfice lors de la surinfection par des pathogènes dramatiques comme Yersinia pestis. Alors ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui devient difficile à discuter dans la période actuelle où il commence à y avoir de nouveaux concepts qui émergent depuis quelques années en immunité innée, qui est en particulier le concept de la mémoire immunologique innée. C'est ce qu'on appelle le trained immunity. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mémoire immunitaire avec des lymphocytes B qui fabriquent des anticorps qui sont spécifiques de tel antigène ou de lymphocytes T qui reconnaissent tel épitope et vont activer tel ou tel système, TH1, TH2. On est dans un système où, au fond, l'infection aiguë imprime quelque chose au système immunitaire inné, au niveau transcriptionnel, on voit monter les cytokines pro-inflammatoires, l'expression des cytokines pro-inflammatoires et d'autres éléments qui vont au fond aider à bâtir l'intensité et la qualité et l'orientation de la réponse adaptative. Mais très rapidement, tout ça revient à la normale et théoriquement, on ne doit plus avoir de traces de cette réponse immunitaire innée et on ne devrait donc pas avoir cette protection innée contre un challenge par des micro-organismes. Sauf que ce qu'on a vu dans les manips de Skip et de Jaeger peut-être correspond à quelque chose de différent qui correspond justement à ce trained innate immunity, c'est-à-dire le fait que, et maintenant on connaît toute la problématique de l'épigénétique, on sait que des promoteurs peuvent être méthylés ou déméthylés, des histones peuvent être acétylés, désacétylés, et donc on a des marques épigénétiques autour des systèmes de régulation des gènes de l'inflammation, par exemple, qui peuvent se stabiliser sur plusieurs générations cellulaires dans le système immunitaire, et donc expliquer que si on réinfecte un individu dans le mois ou les deux mois qui suivent, on va avoir quasiment l'équivalent d'une réponse secondaire dans l'immunité adaptative, c'est-à-dire qu'on va voir les cytokines monter plus vite, plus fort, et ainsi de suite. Donc, ça, ce n'est pas de la latence au sens où il faut du virus présent dans l'organisme pour maintenir un certain niveau de résistance à un antigène, à un pathogène qui viendrait être surinfecté, c'est plutôt de la mémoire d'un imprinting, comme on dit en anglais, d'une impression de signaux, de marques épigénétiques qui va maintenir un état d'hyperréactivité pendant un certain temps du système immunitaire, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pathogène qui va générer de l'inflammation. Donc ça jette un petit peu de trouble sur le concept général et ça montre un petit peu la difficulté de raisonner. D'autant plus que on s'aperçoit de plus en plus, et c'est un peu à ça que je voulais venir aussi, que la phase de latence de ces herpesvirus, elle n'est pas si latente que ça. Et il y a de plus en plus de travaux qui montrent qu'au fond, même en phase de latence, telle que, encore une fois, on la voit au jour le jour chez les uns et chez les autres ici, on n'a pas véritablement une quiescence totale de l'activité virale. D'ailleurs, on se demande bien, à moins que le virus aille s'intégrer dans le génome, ce qui n'est pas le cas pour les herpesvirus, en tout cas pour ce qu'on considère là, il faut bien que quelque part, il y ait un petit peu d'activité de production virale. Ils ne sont pas en train de dormir comme ça dans un coin, comme un fossile à l'intérieur d'une cellule, d'un neurone pour HSV ou d'un lymphocyte B pour BV ou autre. Donc, en utilisant des méthodes extrêmement précise de PCR quantitative, parce qu'encore une fois, ces techniques se sont quand même considérablement améliorées ces dernières années, beaucoup d'auteurs ont montré qu'en fait, il y avait un niveau de base de réplication de ces virus herpès, en particulier du virus du cytomégalovirus et du virus d'Epstein-Barr, et que par ailleurs, le système immunitaire répondait malgré tout à cette niveau faible mais indiscutable de replication. Et ce qui est montré ici sur ces patterns de transcription, je le résume simplement pour dire que par rapport, par exemple, à un animal d'expérience, une souris non infectée par ce fameux virus murin herpès, qui est l'équivalent du CMV humain, les patterns d'expression d'immunité innée sont relativement bas, alors que chez un animal, alors après on va rediscuter l'histoire de la latence, mais en tout cas dans les semaines qui suivent, et même au-delà des deux mois, on continue à voir l'expression à bas bruit, mais certainement significativement supérieure aux animaux contrôle, de gènes qu'on pourrait appeler des gènes innés au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui codent pour l'interféron gamma, par exemple, qui sont élevés. Il y a des gènes qui codent pour la régulation du cycle cellulaire. Il y a un certain nombre de choses qui, manifestement, ont à voir avec des régulations qui sont en place et qui se poursuivent au sein du système immunitaire. Donc, au fond, cette latence, et peut-être quelque part ça remet un petit peu en selle le concept qu'avait proposé Skip Virgin après avoir fait digression pour essayer de le discuter, mais c'est ça aussi la science, c'est le fait qu'il y ait une véritable réalité, que latence n'est pas quiescence, que le système immunitaire, dans ces périodes de calme, plat, néanmoins, reconnaît des virus, des particules virales, même produites à très bas niveau par très peu de cellules, et que cela maintient, au fond, un état de veille immunitaire qui, là, alors pour le coup, est important en termes d'évolution, parce qu'on sait très bien que si le système immunitaire faiblit, on l'a mentionné tout à l'heure au cours des greffes, chez un individu qui va recevoir le CMV ou qui avait déjà le CMV et qui est immunodéprimé, on va avoir très vite développement de formes extrêmement graves d'infections à CMV au niveau oculaire, au niveau intestinal et toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de morbidité et de mortalité. Donc, au fond, la latence ne correspond pas à une quiescence, elle correspond à un état de mise en veille du système immunitaire avec une réorientation. On a parlé tout à l'heure comment ces infections chroniques pouvaient reformater. Elles peuvent le faire même à bas bruit dans ces périodes de latence, contrairement au modèle qu'on avait développé tout à l'heure. Et ça va permettre de biaiser. Par exemple, on a parlé de la formation d'anticorps. Il y a beaucoup plus de cellules mémoire B qui fabriquent des anticorps, et ça, c'est lié à IL-21 et un certain nombre de choses qu'on a dites étaient en rapport avec ces méthodes d'échappement. Donc, on en vient tout doucement, et j'aime bien essayer de réfléchir au fait, on parlait de problématiques de l'âge tout à l'heure, au fond, les enfants font très tôt des infections. Leur expérience immunitaire par rapport au virus herpès, que ce soit herpès simplex 1, que ce soit EBV ou cytomégalovirus. Et on pourrait penser, au fond, que si on essaye de se mettre en condition de réflexion en termes d'évolution, parce qu'encore une fois, tout ça n'existe que parce que l'évolution, la nature l'a décidé sous la pression sélective et par le biais de l'évolution. On pourrait imaginer qu'on puisse pouler finalement virtuellement tous ces trois virus et probablement d'autres sous forme de l'expérience primaire du monde infectieux extérieur qui va, dans cette entrée en latence, parce que le problème est le même pour CMV, BV et HSV, maintenir cet état de non-quiescence, disons de latence, mais de veille active à bas bruit contre ces virus en maintenant le système immunitaire en état. Et au fond, cet élément-là qui est essentiel pour protéger contre la résurgence de l'infection virale elle-même, au passage, nous a bénéficié parce qu'il a permis aussi de développer des défenses immunitaires efficaces contre des micro-organismes hétérologues. Et si on essaye de mettre ça en équation évolutionniste, on n'est peut-être pas loin d'un modèle tout à fait passionnant à réfléchir et à développer. Donc c'est un petit peu ce qui est montré sur ces boosts successifs de primo-infection et le fait que peu à peu, au fond, l'état d'immunité, même si on est rentré dans la latence, monte d'un cran. Tout ça combiné à l'épigénétique, comme on en a parlé, ça commence à bâtir quelque chose qui est absolument fascinant et qui remet encore plus, c'est pas moi qu'il fallait convaincre, je dirais, l'immunité innée à un niveau plus important que ce qu'on pense généralement, même si certains le pensent d'ailleurs, ce qui n'est sûrement pas le cas. Mais on a là un superbe modèle, je crois, qu'il faut véritablement réfléchir. Alors, ça a probablement un bon côté, comme on le disait tout à l'heure, en début de vie, mais ça peut avoir aussi un mauvais côté, je ne vais pas dire en fin de vie, parce que la vieillesse commence à 55 ans, c'est pas tout à fait la fin, à 65 ans, c'est pas tout à fait la fin, heureusement. Mais ce qui est caractéristique, au fond, de la réponse aux herpès virus, et en particulier au cytomégalovirus, qui, encore une fois, est très prévalent dans la population, c'est, par exemple, chez certains sujets âgés, chez beaucoup de sujets âgés, 40% des lymphocytes T spécifiques, c'est ce que je vous ai écrit sur cette diapositive, sont dirigés contre le cytomégalovirus. Donc c'est un pool énorme, c'est presque la moitié des lymphocytes T qui circulent chez une personne âgée sont dédiés au cytomégalovirus. c'est ce qu'on appelle du terme d'inflation mémorielle, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, il y a beaucoup plus de mémoire disponible contre ces virus chroniques, parce que si vous prenez EBV, vous avez des chiffres qui sont plus faibles, de l'ordre de 10 ou 15%, mais on arrive vite à quelque chose qui représente une masse énorme de lymphocytes qui sont, au fond, dédiés à la veille contre ces virus herpès, mais qui, pour les lymphocytes naïfs, qui, au passage, d'ailleurs, sont altérés dans leur fonction par ce phénomène d'inflation mémorielle, vous allez avoir, au fond, une restriction progressive des capacités d'une personne âgée à répondre à des pathogènes nouveaux ou à des antigènes nouveaux. Et c'est tout le problème, par exemple, de la vaccination contre la grippe des personnes âgées. Donc, il y a même la notion qui s'est développée de savoir si tout ça ne participait pas même véritablement au processus d'immunosénescence à proprement parler, c'est-à-dire de dégradation du système immunitaire. Oui et non, pour l'instant, on n'est pas encore très clair là-dessus parce que, au fond, les enfants sont infectés très tôt par ces virus. Ça ne les empêche pas de vivre, de faire des infections aiguës, d'être vaccinés, de répondre aux vaccins. Donc, s'il y a un rôle de cette latence virale qui monopolise la mémoire immunitaire, T en particulier, qui fabrique des quantités importantes d'anticorps aussi, donc la mémoire B doit être aussi pas mal mobilisée, on arrive à peut-être un composant de l'immunosénescence, mais sans doute il y en a beaucoup d'autres qui sont à prendre en considération, et ce n'est pas la seule chose, mais c'est important, hein, parce que si demain il s'avérait que l'infection chronique à cytomégalovirus, même l'attente est un élément important dans l'immunosénescence, étant donné l'allongement de l'âge de la vie, il va falloir absolument envisager de vacciner contre le cytomégalovirus pour l'éliminer à la fois pour sa pathologie, les fœtopathies et autres, ce qui serait déjà une justification éventuelle, mais aussi pour, comme je le dis parfois en plaisantant, au fond, allonger l'âge de la retraite du système immunitaire, mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Dernier point pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on a vu les aspects mutualistiques, dont les aspects positifs. Il y a de plus en plus de travaux. On savait déjà que le BV, par exemple, dans certaines populations, sur des fonds génétiques particuliers, pouvait donner lieu à des lymphomes. Il y a toute maintenant une réflexion et un travail sur des cohortes, mais qui est difficile. Vous entendrez sûrement parler de cohortes par Stanislas pour les hépatites, pour essayer de cadrer cet effet de la présence de ce virome, de la présence de ces infections chroniques éventuellement latentes dans des complications ou des conséquences à long terme dans la vie, comme certains cancers ou l'immunosénescence, les deux d'ailleurs étant dans une certaine mesure reliés. Donc c'est un peu ça, au fond, l'avenir de tout ça, et ce sera ma dernière diapositive, c'est que le futur, c'est bien entendu la quête de nouveaux virus, et donc l'extension, l'augmentation de la profondeur du séquençage pour essayer d'élargir au maximum, de rendre exhaustive la connaissance du monde viral, y compris, encore une fois, dans d'autres populations sur la planète et dans le monde animal qui nous entoure, de façon à voir un peu les porosités. S'il s'avérait que certains de ces virus soi-disant commensaux avaient à moyen ou à long terme un effet important sur la santé, c'est quand même important de le savoir. Développer des méthodes de culture, on l'a dit, plus on va identifier des virus par les méthodes moléculaires, plus va se poser le problème de leur culture et de la compréhension de leur physiologie et de leur physiopathologie. Au-delà des modèles in vitro, établir des modèles in vivo pour mieux comprendre vraiment, à cette fois-ci, la physiopathologie. Mais bon, la souris, c'est bien, mais ça ne dit pas toujours toute la vérité parce qu'il y a une spécificité d'espèce qui est quand même particulière. Vous avez vu que pour les herpès virus, il faut jouer avec des équivalents murins, du cytomegalovirus ou humain, et ainsi de suite. Ce n'est pas toujours très, très, très clair, et les délais d'infection et leurs conséquences sont souvent largement différentes. Et puis, développer encore une fois des études prospectives, des cohortes, de manière à cadrer complètement les effets secondaires éventuels à moyen ou à long terme de ces virus, de, disons, ces composantes du virome qui sont pas tout à fait clairs encore dans leur rôle véritable par rapport à l'homme, d'autant plus, encore une fois, que le rôle peut être, c'est un peu Janus, il peut être positif à certains âges de la vie, négatif à d'autres. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu le bilan de tout ça. Si vous aviez des idées claires sur ce qu'était une infection virale chronique maintenant, malheureusement, ça doit être un petit peu moins clair. Si vos idées n'étaient pas claires, je ne suis pas sûr qu'elles le soient plus après ça, mais je trouvais que c'était plus moi, ce qui m'a plus intéressé de composer, c'est que je ne suis pas virologue, mais enfin bon, je discute avec mes collègues virologues, et il y a quand même des ponts et des points communs. Je trouve que c'était plus la réflexion est intéressante sur, au fond, notre coévolution avec ces virus qui sont jusqu'à présent, à part, encore une fois, les virus pathogènes restaient très mystérieux. Au fond, ça fait un peu le frisson de savoir qu'on a tous ces virus dans le corps, on ne sait même pas ce que c'est et ce que ça fait. Mais c'est un côté fascinant et c'est ça que j'ai essayé de faire passer dans cette présentation. Voilà, je vous remercie.